Alors aujourd'hui, on reçoit M. Mathieu Bock-Côté pour parler de l'importance du fait français dans les médias. Bonjour M. Bock-Côté, comment ça va?
Très bien, vous?
Très, très bien. Gars, on va partir du début. Comment a débuté votre carrière dans le monde des médias?
Oh mon Dieu, presque un peu par hasard. C'est-à-dire, j'ai toujours participé au débat public par des lettres ouvertes à la manière d'un jeune intellectuel qui voulait faire entendre son point de vue sur les questions qu'il tenait à cœur, essentiellement liées à la question nationale. Et un jour, à force d'écrire, eh bien, l'invitation est venue de chroniquer, comme on dit. Oui. Et d'une chronique à l'autre, je suis devenu chroniqueur au Journal de Montréal, d'abord au 24 heures et ensuite au Journal de Montréal en 2011. Et depuis, j'y suis, même si, comme je suis, j'étais là depuis longtemps, comme invité circonstanciel et comme signataire de lettres ouvertes dans les journaux.
OK, c'est ça. Dans le fond, vous faisiez des, disons, des lettres d'opinion dans les différents quotidiens par rapport... beaucoup à la souveraineté.
Moi, quand j'étais très jeune, j'étais militant du Parti québécois, militant souverainiste. Je suis demeuré souverainiste, je suis beaucoup moins militant. Mais au-delà de ça, je dirais que les questions qui m'ont toujours habité intellectuellement, j'ai toujours eu la nécessité d'intervenir dans l'espace public. C'est probablement ce qu'on pourrait appeler ma part française, c'est-à-dire je crois au débat public. Je crois que les intellectuels doivent exister à l'extérieur de l'université, à l'extérieur des revues confidentielles. Ils doivent participer au débat public, chercher à expliciter les grands enjeux, expliciter les thèmes de fond qui traversent une société, révéler, je dirais, les principes derrière les querelles. Et puis moi, bon, à partir de là, donc les questions... J'étais socialisé politiquement ou intellectuellement à une époque où la question nationale était première. Je lui demeure fidèle, mais ensuite les circonstances ont fait en sorte que je suis devenu chroniqueur, comme j'ai au 24 heures, ensuite au Journal de Montréal. Maintenant, depuis quelques années, déjà depuis 2014, j'ai commencé une collaboration au Figaro. J'en suis chroniqueur régulier depuis 2017, si je ne me trompe pas. Je collabore aussi beaucoup dans les médias français. Donc j'ai un pied des deux côtés de l'Atlantique. Pour mon travail dans les journaux, les magazines et dans l'enseignement aussi.
On sait que, justement, en France, il y a une grosse place laissée aux intellectuels, comme vous parlez depuis tantôt. Est-ce que vous croyez qu'ici, au Québec, ils sont assez là, justement, pour stimuler le débat, des gens comme vous?
Oui. Je crois que la vie intellectuelle est présente. Évidemment, on n'est pas la France, on n'a pas la même tradition de pensée, on n'a pas le même rapport à l'espace public. Les rapports entre la politique et la littérature, la politique et la philosophie sont moins intimement liés ici. Donc, on n'a pas la même histoire. Une fois que c'est dit, je constate que si on prend la peine de s'y intéresser, dans tout un circuit de revues, par exemple, hein, je pense à une revue comme l'Action nationale, je pense à une revue comme Argument, on peut penser aussi dans les grands quotidiens, il y a des signataires, des chroniqueurs qui sont tout à fait formés. Donc, non, il y a la vie intellectuelle est présente aussi ici, mais pas comme en France, où elle est intégrée, je dirais, au cœur même de l'espace public. Ça se passe différemment. Mais cela dit, je crois au rôle des idées, je crois au rôle du travail de la pensée, que ce soit de mon côté de l'Atlantique ou que ce soit de l'autre.
Oh, mais comment vous expliquez justement qu'ici, je vous dirais au Québec, on a tendance justement à délaisser un peu des fois ce débat-là d'idées avec justement les personnes plus intellectuelles? Moi, je trouve qu'il y en a quand même moins qu'il y en avait à l'époque. Là.
Ben, ça dépend. C'est-à-dire que c'est aussi une question d'enjeu. C'est-à-dire le Québec a été probablement sur le plan de la vie politique une des sociétés les plus stimulantes philosophiquement pendant 50, 40 ans, disons, avec la question nationale. La question qui se posait ici, c'était la question de la fondation d'un nouvel État. Un nouvel État, quels sont les fondements du nouvel État? On parlait des liens avec la Fédération canadienne, pour ceux qui voulaient rester dans la Fédération. Donc, c'était la question de la nature du pacte politique. Le Québec était un laboratoire de pensée politique assez exceptionnel et qui attirait, comme ça on peut dire que la question nationale partout dans le monde, lorsqu'elle se pose, parce qu'elle est existentielle, parce qu'elle est fondamentale, elle attire les meilleurs esprits. À partir du moment où la question nationale s'est décomposée, certains diraient s'est effondrée, certains diraient s'est disloquée, eh bien la vie intellectuelle n'a plus de la vie publique, n'a plus d'une grande question de synthèse, appelons ça comme ça, une question qui permettrait de faire synthèse de tous les enjeux. Donc là, on a deux choses. On a d'un côté une spécialisation des les universitaires spécialisés, qui sont souvent par ailleurs des militants, bien qu'ils ne le disent pas, interviennent de plus en plus dans la vie publique, mais sur des champs spécialisés. Ensuite, l'opinion a pris de la place dans nos sociétés, ce qui est globalement une bonne chose, parce que ça permet de diversifier les points de vue. Et les médias sociaux jouent souvent le rôle d'un aplatisseur, c'est-à-dire, finalement, c'est une cohue perpétuelle, les médias sociaux. Tout le monde dit toujours, c'est comme l'insurrection quotidienne, le scandale au quotidien.
Oui.
Mais, puis par ailleurs, comme j'ai dit, que les débats politiques, les débats sociaux sont fragmentés, sont éclatés, eh bien, les grandes questions qui pourraient nous rassembler sont moins présentes. La question nationale, quoi qu'on en pense, peu importe comment on votait, la question nationale avait cette vertu de nous amener à toujours réfléchir sur le destin de la collectivité dans son ensemble et non pas en la segmentant morceau par morceau. J'aime dire que les Québécois, non seulement aujourd'hui, ne savent plus ce qui les rassemble, mais ne savent même plus ce qui les divise. Autrefois, quand on entrait dans l'espace public, la question qui se posait, c'est « Êtes-vous souverainiste ou fédéraliste? » Aujourd'hui, il y a les spécialistes de la question climatique, à tout le moins, il y a la question climatique, il y a la question identitaire. On en trouve même pour considérer que le fait d'être un homme ou une femme, ça ne va plus de soi. Donc, c'est la déconstruction des références liées à l'identité sexuelle. Donc, on se retrouve dans une société très éclatée dans sa définition d'elle-même. Je dirais qu'une telle société a plus de difficultés à débattre de son destin.
Pourquoi pour vous, un Français, comme vous possédez un Français impeccable, a toujours été très important lors de débats?
Je voudrais dire que c'est tout simplement, j'ai le souci de m'exprimer correctement, c'est-à-dire à la québécoise, c'est-à-dire je pense qu'on peut parfaitement s'exprimer dans un français québécois très, très correctement, très convenablement, ne serait-ce que pour être capable de nommer les nuances, être capable de nommer les contrastes, être capable de nommer les oppositions. Je veux dire, la richesse du vocabulaire permet de nommer la complexité du monde. À tout le moins, puis ensuite, il y a des gens qui maîtrisent la langue mille fois mieux que je ne maîtriserai jamais, mais j'ai toujours eu cette idée qu'on réussit à décrire le monde dans sa complexité lorsqu'on est capable de le décrire et avec finesse, avec les concepts appropriés, les mots appropriés, les nuances appropriées. Et la langue française, bien évidemment, nous permet de faire tout cela. Il y a une formule d'André Bello que j'ai toujours bien aimée. André Bello, un intellectuel québécois de la deuxième moitié du 20e siècle, qui disait « Nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler. » Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire, notre langue, c'est le français. Et le français n'est pas qu'une langue de communication, c'est connecté à notre être, c'est l'expression de notre univers intime, c'est tout un ensemble de souvenirs, c'est un ensemble d'images, c'est une manière de dire les choses, de les sentir, et de ce point de vue, le français n'est pas optionnel, c'est pas une langue de communication parmi d'autres, c'est pas une langue sur deux, sur trois, sur mille, c'est celle par laquelle on a accès au monde. J'ajouterais, mais ça c'est un privilège immense qu'on a comme Québécois, qu'avec le français, on est directement connecté à la littérature française, qui fait partie du patrimoine de l'humanité, sans le moindre doute. Nous avons accès, si on est un libertarien, c'est pas mon cas, mais si on est libertarien, on a accès à Bastia en français, qui est je vois quelquefois des jeunes Québécois francophones citer Bastia en anglais, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a écrit en français, Bastia. On a accès en français aux plus grandes figures de la littérature. Si vous êtes passionné par l'univers romain de Balzac, il vous est accessible. Les plus grands auteurs dans le rapport à la démocratie, vous pouvez lire Tocqueville, la pensée contemporaine la plus riche. On pourrait multiplier les exemples. La langue française nous donne accès à patrimoine intellectuel remarquable d'une valeur universelle, nous serions bien bêtes de nous en passer.
Mais justement, est-ce que c'est comme ça que vous avez parfait votre niveau de langage lorsque vous étiez plus jeune, la littérature, des choses comme ça?
Ça n'a jamais été un objectif en tant que tel. Je vivais, mon père était professeur au niveau collégial, ma mère était enseignante au primaire.
Okay.
Je devais la langue, l'univers intellectuel et mental de la maison était probablement plus tourné vers la France que les États-Unis, bien qu'il n'y avait pas de mépris pour les États-Unis. Ensuite, la lecture avait une place déterminante dans la maison. Il y avait une bibliothèque immense. Je suis de ce point de vue fidèle à mon père, j'ai construit la mienne. Mais c'était pas un objectif au sens, ça allait de soi. Je vous parlerai plutôt pour ceux qui se... C'est comme ça, c'est une question presque d'héritage familial. Mais il y a un très beau livre qui est paru il y a 4 ans peut-être, qui est « Voir le monde avec un chapeau » d'un jeune écrivain québécois, Carl Bergeron, qui lui raconte dans ce livre comment il vient d'un milieu un peu différent, pas un milieu intellectuel, tout ça. Il raconte comment il a donc c'est un Québécois francophone, mais il vient pas très loin de chez vous, là. Il vient de Pintendre. Et il raconte comment il a réappris son français, il a réappris sa propre langue pour la maîtriser pleinement. Il a renoué avec sa langue pour être capable, justement, il a trouvé une liberté, une souveraineté culturelle et mentale dans le fait de s'exprimer très avec une pleine maîtrise de la langue, et c'est certainement aujourd'hui un de nos écrivains les plus importants. Son livre Denis Arcand, un cynique chez les lyriques, son livre Voir le monde avec un chapeau, c'est des livres très importants, et on lira ses suivants avec grand intérêt.
Quelle est votre opinion par rapport au joual?
Ben, ça dépend ce qu'on entend par là. Je veux dire, si le joual, ça consiste à dire Astor, puis ouais. Montorieux, et puis, je sais pas, sacré quand on se pète le gros orteil, là, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand la structure de la langue est décomposée, quand on passe d'une structure française à une structure anglaise. Le problème... Puis il faut dire que le joual à l'ancienne, on l'a un peu vécu. C'est deux choses. Le joual à l'ancienne, c'était le symptôme de la colonisation du Québec, la vieille colonisation qui remontait à la conquête. Hein. C'était un peuple qui disait qu'il était plus capable de... Bon, c'était pas un volant, c'était un steering, c'était pas un capot, c'était un hood, c'était pas des pneus, c'était des tires. Autrement dit, tout le vocabulaire de la modernité technique, tout ça nous échappait. Donc, pour nommer le progrès, pour nommer l'univers technique, pour nommer la prospérité, c'était l'anglais. Bon, ça, je pense qu'on a fait des progrès immenses par rapport à ça. Ça demeure un problème, parce qu'on est aux marches de l'Empire américain. Là, il y a un nouveau joual, hein, un nouveau joual sophistiqué, un joual de petits branchés, c'est le joual woke, appelons ça comme ça. Et ça, c'est le franglais contemporain. J'ai été assault. Je suis down. Là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce vocabulaire? Et là, moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le fait que pour une partie de la jeune génération, eh bien, c'est des Elvis Gratton hipster, hein. C'est des Elvis Gratton pseudo-sophistiqués. Ceux-là m'inquiètent davantage que nos vieux mononcles qui, par ailleurs, portaient l'empreinte de la domination coloniale. Là, aujourd'hui, ce sont des apprentis citoyens du monde qui ont l'impression de se grandir en reniant leur propre langue. De cela, je m'inquiète davantage.
Mais en même temps, on le voit aussi un peu chez nos cousins français. Il me semble que l'usage d'anglicisme est monnaie courante.
Oui, mais c'est pas la même chose, que là-bas, c'est une question pour vivre des deux côtés de l'Atlantique, mais pas pour y vivre pour passer beaucoup de temps en France. Quand il n'y a pas de pandémie, j'y passe beaucoup de temps.
Oui.
Je vous avouerai que l'anglais là-bas relève plutôt de la mode. Hein. C'est une forme de petite mode branchée, disons ça comme ça. Mais c'est pas la même chose qu'ici, où le rapport à l'anglais, au franglais woke, Elvis Grattonisé, ou l'Elvis Gratton wokeisé, disons ça comme ça, ça c'est autre chose. Ça c'est véritablement une manière de se désaffilier de l'identité québécoise, comme si on la portait comme un fardeau, comme si on la portait comme une espèce d'identité trop lourde dont on devrait se délivrer pour enfin accéder à l'universel anglo-saxon, mondialisé. Ça je trouve ça plus inquiétant.
Mais vous croyez que vraiment, parce que pour souvent parler avec des personnes plus jeunes qui baignent dans l'univers, disons, hip-hop. Il y a beaucoup d'artistes hip-hop qui, eux, utilisent le franglais. Je crois que c'est juste pour une plus grande facilité au niveau des rimes. Vous croyez vraiment que ça répond à votre rhétorique?
Oui, je crois. Je crois parce que ça vient avec beaucoup de choses. Ça vient que ça rend une forme de montréalisation de l'identité. Hein, c'est-à-dire Montréal se désaffilie symboliquement du reste du Québec, comme si le reste du Québec, c'était la province des cutéreux, la province des réacs, la province des arriérés. Et à Montréal, on avait la branchitude cosmopolite mondaine. Donc, on présente, c'est le paradoxe, hein, on présente l'espèce d'étrange franglais comme une forme d'ouverture sur le monde, alors qu'il n'y a rien de plus régressif sur le plan culturel que ce franglais. C'est-à-dire, parler anglais ou parler français, très bien, mais quand vous mélangez les deux, vous créez un dialecte montréalais incompréhensible, sauf pour ceux qui sont dans la secte, peut-on dire, hip-hopisante, ou pour cette nouvelle génération qui, elle, est peut-être en train de basculer à l'extérieur de la référence québécoise. Et ça, on revient à la question nationale, je pense. Un peuple qui échoue son indépendance à deux reprises, un peuple qui est incapable d'avoir cette part de sécurité linguistique indispensable qui lui permettrait de se projeter dans l'avenir, un peuple qui doute toujours de sa légitimité et à qui on fait comprendre que dès qu'il s'affirme, en fait, il est coupable de suprémacisme ethnique, un peuple qui a besoin de se rappeler régulièrement qu'il est légitime dans son existence, parce que sinon, ce serait un peu trop pourquoi on n'est pas américain. Si on était américain, au moins, on serait riche. Si on était pleinement canadien, on serait au moins anglophone et on participerait à la grandeur du monde. Là, on est pris dans notre petite province, dans notre idée rétrograde, francophone, réactionnaire au Québec. C'est pas comme ça que je vois le monde. C'est comme ça que je sens que c'est porté comme discours. Eh bien, je pense que l'échec de l'indépendance, on en fait le prix jusqu'à la dislocation de notre rapport à la langue.
Justement, t'sais, vous avez parlé de Montréal. Êtes-vous inquiet de la place du français dans la ville de Montréal?
Ah, je suis terrorisé. Je suis terrorisé. Je vois le français en régression à Montréal. Et vous êtes, comme on dit ça, on est 15 ans en retard. Maintenant, on est rendu à Laval. On est rendu sur le, un peu sur la rive sud. On voit que Laval bascule. On voit que Montréal a basculé. Donc, il y a encore ici et là des poches de résistance. Mais globalement, on est en train de perdre la grande région métropolitaine. Et deux Québec dans un sont en train d'apparaître. Et devant cela, me semble-t-il, il faut être très, très prudent. Je crois, de ce point de vue, qu'il y a une situation d'urgence linguistique. Il faut marquer clairement une volonté de reconquérir culturellement Montréal pour éviter que Montréal soit une ville désaffiliée du reste du Québec, que Montréal soit une ville cosmopolite, une ville branchée sur le monde, que Montréal n'est pas une psychologie provinciale. Très bien, j'en suis très heureux, je suis heureux qu'on ait une ville d'envergure au Québec, mais que Montréal se désaffilie du reste du Québec, je dis non. Donc, pour conquérir Montréal, ça implique plein de choses. Hein. Ça implique, par exemple, de redéployer le financement du système universitaire et collégial pour véritablement faire des institutions, des instances de francisation à Montréal. Ça implique de faire en sorte que le français soit la véritable langue commune des institutions, la langue du gouvernement. Ça implique, je crois, d'étendre la loi 101 au niveau collégial. Ça me semble nécessaire. Ça implique de réduire les seuils d'immigration parce qu'on n'est pas capable d'intégrer et de franciser autant de gens que ceux qu'en ce moment. Ce n'est pas une question d'être ouvert ou fermé. C'est une question de savoir dans quelle mesure on est capable d'intégrer. Et ça implique aussi que chaque Québécois prenne la responsabilité d'assurer la promotion du français. Autrement dit, de ce point de vue, ça nous faut une nouvelle, je dirais que ça nous rend une nouvelle révolution tranquille sur le plan linguistique pour être capable de se redonner un peu de vigueur identitaire et existentielle.
Mais les différents moyens que vous venez d'énumérer, puis vous parlez de révolution linguistique, croyez-vous qu'on est prêt de le faire ou que, tu sais, que ça pourrait être réalisable avec, je sais pas, tu sais, sans tomber dans la politique là, avec les gouvernements en place?
Ben, étape par étape. Hein. Moi, en ces matières-là, c'est le rôle des intellectuels. Vu qu'on n'est pas prisonnier avec des échéances électorales, on peut chercher et on n'a pas des compromis à faire avec un parti.
Non, c'est ça.
Déjà, un intellectuel a de la misère et est membre de son propre parti mental. Mais non, plus sérieusement, je pense que certaines étapes se font. Je pense que le gouvernement du Québec pourrait, par exemple, décider de s'assurer d'un financement adéquat des institutions francophones au niveau collégial et universitaire. Je pense que le gouvernement du Québec pourrait faire du français la langue de l'État. Ça, je pense qu'il le peut. Je pense que les partis d'opposition nationaliste pourraient pousser ça plus loin avec la question du cégep. Je pense que la question de l'immigration élite, on en débat en ce moment. Je pense que le gouvernement du Québec... Donc, autrement dit, il y a toute une série de mesures qui sont possible, certaines plus rapidement, d'autres qui vont prendre plus de temps, mais il faut avoir une vision à moyen et long terme pour être capable de refaire de la bataille du français la bataille centrale de notre identité. On l'a un peu laissé de côté pendant longtemps. Là, c'est un peu l'héritage, c'est l'illusion de la loi 101. La loi 101 qui est une loi essentielle, mais on a eu l'impression qu'elle nous donnait la sécurité linguistique pour toujours. Et on constate que ce n'est pas le cas aujourd'hui, qu'elle nous a permis de faire des progrès, mais globalement, elle n'a pas été assez loin, elle n'a pas pu suffisamment transformer le Québec. Elle devait s'appuyer sur l'indépendance. L'indépendance n'est pas venue. On doit se donner une nouvelle politique linguistique à grande échelle au Québec pour s'assurer que le Québec demeure un pays de langue et de culture française.
Mais croyez-vous que la population québécoise serait apte et à embarquer dans un tel projet ou serait plutôt réfractaire?
Ben, ça dépend. Je pense que les Québécois, ça fait 20 ans, plus que ça même. C'est 25 ans qu'on leur explique que leur langue, enfin je dirais même que ça fait depuis 250 ans, la rigueur si on veut, mais qu'on leur explique que leur langue est trop. Il y a une forme de conditionnement idéologique au Québec qui fait en sorte que les Québécois sentent toujours que dès qu'ils veulent redresser l'échine, en fait, ils piétinent l'autre. Donc, je pense qu'on a toujours ce réflexe de penser qu'on va trop loin dès qu'on commence à aller quelque part. Mais je pense aussi que l'inquiétude linguistique par rapport à Montréal est de plus en plus vive, elle est de plus en plus présente dans l'espace public. Le récent rapport de l'OQLF qui prouvait que l'anglais est en train de devenir, est devenu la langue de travail dominante à Montréal. Je pense que les Québécois entendent ça et s'inquiètent, et de ce point de vue, je pense qu'il n'est... Il est toujours trop tard pour agir, mais il n'est jamais trop tard pour entreprendre. Hein. Disons ça comme ça. C'est-à-dire, on aurait toujours dû commencer quelques années auparavant, mais à un moment donné, il faut commencer, puis disons que commencer, ce sera maintenant.
Je crois que c'est une très belle synthèse pour notre conversation. Je vous remercie beaucoup, M. Boccoté, en espérant avoir le plaisir de vous reparler.
Au grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonne fin de journée.